RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France, Christophe Cessieux.
Et jusqu'à 20h, effectivement, spécial Tour de France depuis Chorges, au pied du lac de Serponçon, juste à côté de ce lac où nous avons assisté cet après-midi au dernier contre-la-montre de ce Tour de France, remporté de main de maître par Chris Froome. Oh, certes, l'écart n'est pas aussi impressionnant que l'autre jour dans le Ventoux, 9 secondes à peine, mais 9 secondes qui font le bonheur de Chris Froome, qui a su répondre aux attaques d'Alberto Contador. Nous reviendrons également dans quelques instants sur la détresse de Jean-Christophe Perrault, victime d'une fracture de la clavicule ce matin, qui a tout de même tenu à prendre le départ et qui a chuté sur son épaule malade. On en parle dans quelques instants. Enfin, la descente de Sarène, celle qui fait froid dans le dos de tous les coureurs du peloton, sera au centre du débat dans quelques minutes. Mais en attendant, avant tous ces débats, c'est le retour de Jean-Louis Tour, évidemment, pour la deuxième édition du Journal des Sports. Et on revient évidemment sur la nouvelle victoire de Chris Froome qui prépare parfaitement l'étape reine de demain, Jean-Louis.
Et oui, avant le triptyque même alpin, le maillot jaune a remporté sa troisième victoire d'étape aujourd'hui. Le contre-la-montre à Chorges, 9 secondes de mieux qu'Alberto Contador. Au général, l'Espagnol récupère même tout de même la deuxième place au Hollandais Mollema. L'image du jour, c'est l'abandon du meilleur Français. Au général, Jean-Christophe Perrault, victime de deux chutes sur l'ensemble de la journée.
C'est pas la fracture qui m'a handicapé dans la courbe. Voilà, il recommençait à pleuvoir, peut-être que la route commençait à peine à redevenir humide et la roue avant est partie à nouveau dans un autre virage. J'avais pas l'impression de prendre des risques, je descendais à la mesure de ce que je savais faire, mais j'ai vraiment été piégé par la roue avant qui est partie dans le dernier virage. C'est le sport, je suis à peu près en bonne santé, j'ai juste une fracture de la clavicule. Ça m'apprendra à vouloir insister sur des blessures graves. Je pense que je ne referai pas l'erreur. On va penser les plis et on repartira sur un organisme frais et dispo.
La déception de Jean-Christophe Perrault, double ration demain pour les coureurs, deux ascensions de l'Alpe d'Huez et surtout la descente du col de Sarène. Alberto Contador a déjà attaqué dans une défense sur ce Tour de France, mais vu la dangerosité de celle de demain, ça ne doit pas être un endroit pour créer des écarts pour Nicolas Portal, le directeur sportif de la Sky, l'équipe du maillot jaune, Christopher Froome.
Je sais pas si. En fait, la vraie question que vous me posez, c'est est-ce que des coureurs vont prendre cette descente pour rester sur la course? Ça, franchement, je sais pas. J'espère pas. Non, mais voilà, on est clair, ouais, c'est ça. J'espère pas parce que ça m'est quand même très, très, très compliqué. Quoi. Là, on joue avec des vies humaines quand même.
Vous envoyez un message à Alberto Contador alors. Si on doit nous attaquer, c'est pas là.
Non, s'il veut attaquer, il part tout seul, mais il évite d'amener trop de monde avec lui, quoi, parce que ça va. C'est peut-être pas tout le monde qui peut prendre sa roue, quoi.
Nicolas Portal avec Georges Quirino, l'un des envoyés spéciaux RMC Sport sur la route du Tour. Rendez-vous dès 14h demain pour ne rien rater de cette étape. Et on en reparle dans un instant avec Christophe Cessieux, l'intégral Tour jusqu'à 20h. Un champion du monde au PSG, Lucas Digne, sacré avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Samedi, a passé sa visite médicale ce matin dans la capitale avant l'officialisation. Dans les heures qui viennent, une deuxième recrue après Edinson Cavani, présenté hier pour ses nouveaux joueurs. L'interlocuteur, ce n'est plus Leonardo, parti du club hier, mais Jean-Claude Blanc. Mohamed Bouafsi, l'ancien directeur général, va désormais prendre plus de poids au club, notamment sur l'aspect sportif.
C'est lui qui a finalisé le transfert de la star Edinson Cavani à Paris. Comme annoncé par RMC Sport depuis plusieurs jours, l'actuel directeur général délégué du PSG, Jean-Claude Blanc, va poursuivre le travail de Leonardo, qui a quitté ce mardi ses fonctions de directeur sportif. Blanc devrait voir ses pouvoirs élargis, comme nous l'a confirmé le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi. Son travail, ces derniers temps, a fait l'unanimité du côté du Qatar. Agréablement surpris par Jean-Claude Blanc ces dernières semaines, le président qatari sait qu'il possède une option maison qui offre des garanties. Respecté en Italie, Blanc a déjà eu en main les destinées sportives d'un géant européen puisqu'il a été directeur général et président de la Juventus Turin. Déjà signataire officiel du PSG lors des transferts, Jean-Claude Blanc va donc désormais endosser un nouveau costume qui semble loin d'être trop grand pour lui.
Les précisions de Mohamed Bouafsi pour RMC Sport. Concernant l'arrivée du défenseur brésilien Marquinhos au PSG, nous sommes très proches d'un accord pour un transfert de 32 millions d'euros et 3 de bonus. C'est ce qu'a confié RMC Sport une source interne au club italien. En natation, l'équipe de France s'est réunie aujourd'hui à Dijon en guise de préparation aux Mondiaux de Barcelone à partir du 28 juillet. À cette occasion, Yannick Agnel, qui s'entraîne désormais aux États-Unis, est de retour sur le sol français. Nouvel extrait de ce document RMC Sport, le double champion olympique n'a pas nagé pendant 3 semaines, mais il a tenu à rassurer l'équipe de France sur son état de forme.
Je suis là pour aider l'équipe de France. Si je me lance sur un 200 mètres en individuel, c'est que je me sens capable de tenir tout le programme et que je serai toujours là si besoin. Et effectivement, il va falloir faire en fonction des sensations de chacun hein, par rapport à leur temps réalisé récemment. Donc ça annonce que de très bonnes choses pour nous.
Yannick Agnel avec Julien Richard pour RMC Sport. En athlétisme, fin de carrière pour Mehdi Bahala, le vice-champion du monde 2003 et médaillé de bronze olympique du 1500 mètres, l'a officialisé sur son compte Twitter aujourd'hui. Je n'ai aucun regret regret, a ajouté celui qui fêtera ses 35 ans dans un mois, qui avait mis sa carrière entre parenthèses depuis un an. En Formule 1, comme RMC Sport vous l'annonçait il y a 10 jours, Jean-Éric Vergne ne remplacera pas Mark Webber la saison prochaine chez Red Bull. Le patron de l'écurie, Christian Horner, l'a confirmé ce mercredi au micro de Sky Sport. Seuls deux noms restent en course pour succéder à l'Australien Kimi Raikkonen et Daniel Ricciardo. 19h11 sur RMC, l'occasion de retrouver Christophe Cessieux pour l'intégral tour.
Évidemment, évidemment, toujours en direct de Chorges où il tombe de grosses gouttes ce soir. Oui, effectivement, ça tombe sur le toit de notre petit camion et les prévisions ne sont pas beaucoup plus optimistes pour demain avec cette étape reine du Tour de France entre Gap et l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez que les coureurs devront grimper à deux reprises et entre les deux ascensions, la descente de Sarenne. On va en parler évidemment de cette descente de Sarenne dans quelques instants avec toute l'équipe. Nous allons également revenir sur la journée terrible de Jean-Christophe Perrault qui a été victime de deux chutes aujourd'hui. La première ce matin lors de la reconnaissance qu'il y a coûté une clavicule. Il a tenu malgré tout à prendre le départ et une nouvelle chute. Cette fois-ci, c'est l'abandon pour Jean-Christophe Perrault. Fallait-il le laisser prendre le départ de l'étape? Ce sera le thème de notre premier débat. Enfin, on s'intéressera à la nouvelle défaite d'Alberto Contador qui a peut-être fait une erreur tactique en ne changeant pas de vélo au sommet de la dernière côte de la journée. Tout cela, donc, dans un instant. Auparavant, nous allons nous remettre dans le direct. C'était cet après-midi, cette 17e étape du Tour de France, le chrono et une nouvelle victoire de Chris Froome. Chris Froome donc en position de recherche de vitesse là dans les derniers hectomètres de cette étape. Chris Froome a envie de marquer les esprits, a envie de remporter une troisième étape sur les routes du Tour. Il lui reste 20 secondes pour cela a priori, Fred. Il devrait terminer devant Alberto Contador, Chris Froome.
Christopher Froome lancé tel un bolide et qui va tenter d'aller voler la victoire à Alberto Contador. Il y parvient sans problème, près de 9 secondes d'avance pour Christopher Froome qui a bel et bien terminé comme une balle. Alberto Contador est dépité, il a encore trouvé à qui parler et malgré les affres de la météo, Christopher Froome est bel et bien le patron du Tour. Il remporte sa troisième victoire d'étape sur ce Tour 2013 après Aix-Trois-Domaines, après le Ventoux. Il est désormais le maître du temps, c'est sa première victoire dans un contre-la-montre. Christopher Froome qui comptera plus de 4 minutes 30 d'avance sur Alberto Contador au classement général ce soir. Il a une solide marge de sécurité à la veille de l'Alpe d'Huez.
RMC Intégral Tour.
Nouvelle victoire donc de Chris Froome, la troisième depuis le début de ce Tour de France. Chris Froome qui est désormais largement en tête, encore un peu plus qu'il l'était ce matin puisqu'il possède désormais 4 minutes 34 sur Alberto Contador. On va évidemment revenir sur la bataille pour le général dans un instant, mais auparavant, messieurs, d'abord je vous salue, monsieur Guimard, bonsoir, salut le druide.
Oui, bonsoir.
Lucho est également avec nous, bien à l'abri dans le camion.
Oui, bonsoir.
On est mieux là dehors, hein, on est mieux que là dehors parce que c'est
il tombe là c'est les gros orages.
Ah ouais, gros orage de montagne. Oui, oui. Et Thierry Bourguignon, bah lui, il est dans sa maison à Avignon. Il doit faire beau, il doit faire chaud. Il n'y a pas d'orage à Avignon. Salut Thierry.
Et bonsoir messieurs, mais il y a un petit peu d'orage, mais un peu moins fort que vous. Hein.
Ah oui, oui, parce que là, ça tonne.
C'est grave.
Ça tonne et il y a des éclairs partout. On espère qu'on va pas être coupé. Autrement, Thierry, c'est toi qui feras le débat tout seul. Hein.
Et on assurera.
Alors messieurs, vous avez tous vu cette terrible image. Pour moi, c'est probablement l'image de ce Tour de France. Il y en aura peut-être d'autres demain et dans les jours qui viennent. Il y a eu aussi évidemment l'image de Chris Froome qui a sprinté l'autre jour dans l'ascension du Mont Ventoux, mais l'image de Jean-Christophe Perrault cet après-midi qui chute sur son épaule malade, sur son épaule fracturée le matin même, plus exactement sur sa clavicule. On rappelle donc ce matin que Jean-Christophe Perrault avait tenu à faire une dernière reconnaissance de ce contre-la-montre atypique avec deux montées et surtout deux descentes assez vertigineuses, et malheureusement pour Jean-Christophe, eh bien il a chuté ce matin et a été victime d'une fracture de la clavicule. Malgré tout, JC Perrault a tenu à prendre le départ de l'étape cet après-midi et pam, patatras, nouvelle chute à quelques centaines de mètres de la fin de la deuxième descente. Et cette fois-ci, Jean-Christophe Perrault a dû déclarer forfait pour le reste de ce Tour de France, abandonné. Terrible Jean-Christophe Perrault. On va tout de suite écouter son témoignage. Tendez l'oreille parce qu'évidemment le ton est bas et on sent la déception dans les propos du leader de la formation G2R.
C'est pas la fracture qui m'a handicapé dans la courbe. Voilà, il recommençait à pleuvoir, peut-être que la route commençait à peine à redevenir humide et la roue avant est partie à nouveau dans un autre virage. J'avais pas l'impression de prendre des risques, je descendais à la mesure de ce que je savais faire, mais j'ai vraiment été piégé par la roue avant qui est partie dans le dernier virage. C'est le sport, je suis à peu près en bonne santé, j'ai juste une fracture de la clavicule. Ça me prendra à vouloir insister sur des blessures graves. Je pense que je ne referai pas l'erreur. On va penser les plaies et on repartira sur un organisme frais et dispo.
Voilà, Jean-Christophe Perrault qui dit qu'il est en forme, qu'il est en bonne santé malgré une fracture de la clavicule, qui ne l'a pas empêché malgré tout de prendre le départ tout à l'heure. Alors, messieurs, évidemment, lorsqu'on voit cette image, une image qui choque tout le monde, parce qu'on imagine la douleur qu'il a dû ressentir, hein, Cyril, c'est terrible de chuter sur une fracture, surtout une fracture fraîche, hein, qui date de quelques heures. Franchement, il a dû morfler quand même sur ce coup-là. Hein.
Oui, j'ai eu la chance de ne pas connaître ce genre de choses, et on est beaucoup, mais c'est vrai que le vrai débat, c'est est-ce qu'il devait partir, pas partir, tenter le tout pour le tout. Je ne porterai pas de jugement par rapport à cela, parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte dans cette affaire, mais c'est vrai que cette chute spectaculaire, il est un petit peu hors trajectoire, mais est-ce que s'il n'avait pas été blessé, est-ce qu'il aurait chuté? Mm-hmm. On peut toujours se poser la question, parce qu'il a quand même inconsciemment, même il est obligatoirement gêné, parce qu'il a cette souffrance au niveau de l'épaule. Je pense que sans blessure, je ne pense pas qu'il aurait chuté dans ce virage.
Oui, parce qu'il n'avait pas l'air plus dangereux que les autres, ce virage. Non, bon, la route redevenait humide après avoir séché pendant un moment.
Je pense qu'on est toujours... On est obligatoirement un tout petit peu crispé. Quand on est un petit peu crispé, eh bien, on a beaucoup de difficultés à refaire le geste précis, et ça a été le cas. Malheureusement pour Jean-Christophe, qui faisait un beau tour... Mais on le retrouvera de toute façon, ouais. Et à mon avis avant ouais. La fin de la saison.
Tu l'aurais fait partir si tu avais été aujourd'hui le directeur sportif de Jean-Christophe Perrault. Est-ce que tu l'aurais autorisé à prendre le départ? On sait qu'évidemment le coureur tenait à prendre le départ. Il était 9e ce matin, premier français. Il avait tout misé sur cette étape, ce contre-la-montre. Il espérait se rapprocher du top 5 et comme ça être obligé à quelques heures du départ de devoir renoncer. C'est terrible, c'est un crève-cœur pour un coureur. Mais bon, de temps en temps, il faut savoir être le chef et imposer ses choix.
Oui, mais il y a deux choses. D'abord, il y a le médecin qui est le patron. Alors, le médecin donne le feu vert ou ne donne pas, mais la véritable décision, dans un premier temps, elle appartient au médecin. Si le médecin dit éventuellement il peut partir, est-ce que véritablement le directeur sportif peut s'opposer au départ de son coureur si celui-ci veut absolument repartir? Vous savez, c'est très difficile, on est dans le Tour de France. Je peux vous dire que si ça avait été sur le critérium du Dauphiné ou la Route du Sud ou Paris-Nice,
oui, c'est ça.
Il n'aurait jamais pris le départ, il serait rentré. Mais on est sur le Tour de France. Donc il faut s'imaginer ce que représente pour un coureur le Tour de France, ce que représente pour l'équipe, ce que représente pour les partenaires le Tour de France, et à plus forte raison lorsqu'on est dans le top 10. Donc personnellement, ouais. Je ne prendrai pas position parce que je ne suis pas en position de la prendre. Et j'ai été sur un Tour d'Espagne dans une situation un peu identique, pas tout à fait, puisque le maillot jaune de l'équipe Dominique Gagne, puisque c'est lui qui avait le maillot, a chuté. Bon, il avait une petite perte de conscience. On était à 80 km de l'arrivée et j'ai demandé à ce qu'il monte dans l'ambulance.
D'accord.
Mais on n'est pas dans les mêmes circonstances.
Oui, on n'est pas. Donc, c'était pas le Tour de France, c'était la Vuelta.
Je ne donnerai de leçon à personne.
Non, il ne faut pas donner de leçon, évidemment, parce que tout le monde est déçu. Luc, si toi, tu avais été dans la peau de Jean-Christophe Perrault, est-ce que tu aurais pris le départ? Dans la peau, c'est-à-dire 9e au général, premier français, avec beaucoup d'espoir sur cette étape, mais avec une clavicule, une clavette en balade.
Ben après, tout dépend de la douleur. Bon, après, c'est vrai qu'il était.
On l'a
chaud.
On l'a vu.
Mais c'était
avant de prendre le départ, voilà. il était livide.
J'aurais pris le départ aussi. Mais je pense que si Perrault avait terminé ce contre-la-montre, je pense que la difficulté de Jean-Christophe, c'était surtout demain. Parce ouais. qu'à froid, passer la nuit à froid le lendemain, je pense que ça aurait été très très difficile pour Jean-Christophe, même s'il avait continué le chrono. Mais malgré tout, il a fait quand même une belle performance. Il était bien par rapport
oui, il perdait pas trop de temps.
Ouais. Mais ceci dit, demain, je pense pas qu'il aurait pu continuer le tour dans ces conditions-là.
Mais toi, tu aurais pris le départ.
Moi, j'aurais pris le départ.
D'accord.
Thierry, c'est le Tour de France, on est français.
Ouais. Thierry, il y a quand même que dans ce sport hein, qu'on peut prendre le départ d'une épreuve avec une clavicule cassée. Il y a pas beaucoup d'autres exemples. Si, peut-être les pilotes moto aussi qui sont des risques tout.
Pilotes moto, rappelle-toi, ouais. Il y a pas si longtemps.
Bien sûr. Des gens qui arrivaient quasiment en chaise roulante, qui montaient sur leur moto et qui prenaient le départ.
Cinq jours après l'opération de sa clavicule, il est remonté sur une moto. Il a fait un grand pli, oui. Bon, là en l'occurrence, c'est très difficile de dire quoi que ce soit. C'était le moment. On n'a pas vu. Il parlait d'un trait de fracture. Bon, il y avait sûrement une, une petite douleur, c'est certes.
Une petite, tu dis, une fracture de la clavicule, c'est super douloureux quand même.
Non, je t'assure, non, ça veut rien dire. Ça, c'est suivant la personne. Parce que moi, je me la suis cassée il n'y a pas si longtemps.
Moi, il y a un an, je peux dire que ça
moi,
fait
je me suis frité une fracture de la clavicule, je peux te dire que j'ai dansé. Hein.
Ah ben ouais, ben on n'a pas la même chose. Ouais, je me
oui,
suis
c'est
relevé.
Pour ça, vous êtes des warriors, vous.
Non, mais je me suis relevé, là, il y a quoi, il y a 6 mois, avec une fracture de la clavicule bien déplacée. Et voilà, je me suis tiré au bord de la route, j'ai appelé ma femme et j'ai dit appelle-moi.
Ouais, mais t'as pas ramené la voiture à la maison.
Ah ben non, mais attends, attention, il y avait déplacement et tout. Non, mais bien sûr que non. Mais là, tu l'as dit, mes collègues l'ont dit, on est au Tour de France, c'était le premier Français, c'était très difficile, c'est très difficile de quitter un grand tour comme ça. On essaie toujours de s'accrocher à ce qu'on peut. Lucho, tu l'as dit, même s'il passait ce chrono avec certes une 50, je crois qu'il avait de retard, bon ça c'est pas grave, mais demain il aurait fait quoi? Je pense qu'il n'aurait jamais été dans l'allure et puis il aurait été obligé de bâcher. Mais voilà. Dans l'obligation de bâcher. Alors qu'on ne se retire pas du Tour de France. Même on l'a toujours dit. Et oui, on essaie toujours de s'accrocher. Ouais. On dit, oh, ça va passer, on va y arriver. Et puis ben, force de douleur, ben, on est obligé de descendre de vélo. Oui, voilà. Non, mais là, ça fait mal. Ça fait mal. En voyant l'image, franchement, on a mal en le voyant glisser. Ça fait très, très mal.
Ça fait très mal. Frédéric nous appelle au 32-16, il voulait intervenir sur le sujet de Jean-Christophe Perrault. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Bon, alors, votre avis là-dessus. Fallait-il le laisser prendre le départ?
Alors, moi je pense que... Oui, il a bien fait. Enfin, je veux dire, là je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de se dire. Lucho a rappelé, là, il a rappelé l'épisode Pascal Simon, je crois, hein, c'est ça, en 82.
Oui, tout à fait, ouais.
Mm-hmm. Maillot jaune, il est tombé, clavicule pareil, hein, je crois. Ouais.
Et ah, puis, moi, je me rappelle. Plusieurs jours avant d'abandonner, finalement.
Pardon, ouais.
Ouais. Oui, Fred.
Oui. Et puis, je me rappelle l'épisode Hamilton, ambiance, US Postal. Hein. Bon, c'est peut-être pas très glorieux.
C'est différent, mais... là. C'était une autre époque.
Je crois même il avait pas gagné l'étape dans les Pyrénées, comme ça, non?
Si, dans les Pyrénées, il avait gagné l'étape.
Mais bon, on n'a jamais vraiment su quel était l'état de sa clavicule ce jour-là. Il nous disait.
Ouais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention, un trait de fracture, ça veut rien dire.
Oui, c'est pas. Bon,
là,
il y avait des placements, on nous disait qu'il y avait des placements.
Disons, c'est pas la première fois qu'un gars qui se pète la gueule. C'est pas la première fois qu'un gars qui se pète la gueule remonte le vélo, hein. Et surtout sur le tour. Et donc, en fait, je vous ai écouté là et je rappelle, moi, ce qui me vient en premier là, vous venez de le dire, hein, premier français, dans les 10, quand t'es français, que tu finis le tour dans les 10, dans les 10 premiers du Tour de France, c'est une quasi-victoire, hein. On se rappelle, Vauclert et Pierre Roland, il y a 2 ans, un petit peu avant, il y avait Dessel et Moreau. Enfin,
oui, Moreau.
Être dans les 10 sur le tour, c'est important. Arrêter le tour. Arrêter le tour dans la dernière semaine, putain, fait chier. Ouais. Alors effectivement.
On va devoir faire court là parce qu'on va devoir s'arrêter. Donc allez-y, concluez.
Non, mais. Qu'est-ce qu'il va faire demain? Bah oui. Peut-être qu'il va finir avec Gruppetto Cavendish, peut-être qu'il finira le tour, tu vois. Mais quand t'es dans ce qui, bon, Lucho et Thierry et Cyril, vous connaissez ça. Hein. Ouais.
Oui, alors je voudrais seulement rajouter une petite chose, c'est qu'on est dans le cadre d'un contrat de travail et donc du code de travail. Je ne sais pas si le médecin a le droit de le laisser partir.
Ouais. Il faudra qu'on aille poser la question demain. Merci Fred, en tous les cas, pour cet avis très intéressant. On va poursuivre dans quelques instants nos débats, s'intéresser à Contador et s'intéresser à la descente de sa reine.
RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France. Christophe Cessieux.
Jusqu'à 20h, nous débattons évidemment comme tous les soirs dans l'intégrale Tour de France avec toute la Dream Team, Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. Nous avons parlé du cas Perrault qui a donc abandonné le Tour de France aujourd'hui, victime d'une fracture de la clavicule. Intéressons-nous maintenant, si vous voulez bien, à la bagarre pour le général avec une nouvelle victoire de Chris Froome qui s'impose avec 9 secondes d'avance sur Alberto Contador. Contador qui était pourtant devant Froome, Cyril, dans tous les points intermédiaires, notamment le premier, le deuxième il avait 11 secondes, le premier il avait 2 secondes d'avance, le deuxième 11 secondes, et puis...
Le deuxième, il ne faut pas le compter, puisque en fait, voilà. Il change de vélo. Voilà. D'ailleurs, c'est peut-être aussi intentionnel de changer avant le poste. Comme ça, le premier Ricard qui arrive sur Contador, il est en retard. Parce qu'à mon avis, il était pratiquement, il y avait 11 secondes. Le changement de vélo doit prendre entre 10 et 15 secondes. Donc, ils étaient pratiquement à égalité. Sauf que le changement de vélo de Froome lui permet de priver Contador de la victoire, car Contador, lui, n'a pas changé de vélo. Et dans les derniers kilomètres, il y a un écart énorme.
Voilà, entre 11 et 9, 11 plus 9, ça fait 20 secondes d'écart sur 12 kilomètres. Hein, il lui a repris 20 secondes. Ouais. Chris Froome a repris 20 secondes à Contador en s'imposant. Est-ce que Contador a fait une erreur tactique en ne changeant pas de vélo? Lucho, qu'est-ce que tu en penses? C'est quasiment le seul des grands leaders
qui n'a pas
changé.
Sachant qu'il restait quand même pas mal de bornes avant l'arrivée et que la descente était très, très, très rapide. Hein, c'était vraiment pas du tout l'identique de la première descente. Ben oui, il aurait fallu changer de vélo. C'était une question de 4-5 secondes. Le mécano, paf, bondit, lui donne le vélo. C'est quoi? C'est, allez, 4-5 secondes de perdu, Cyril.
Un peu plus.
Tout petit peu plus, mais bon, ça valait le coup.
Il faut compter au minimum 10 secondes.
Ouais, c'est bon, ouais. Ça valait le coup quand même de le changer, le vélo. Surtout qu'il avait de l'avant sur Froome.
On voit qu'en Formule 1, on change les pneus, on va plus vite après. Tiens, on va écouter justement à ce propos Chris Froome. Est-ce que cette victoire, aujourd'hui, cette troisième victoire sur les routes du Tour, est due justement à son changement de vélo? On écoute tout de suite le leader du classement général.
Ce matin, quand on a vu le parcours, j'ai décidé à prendre le deuxième vélo, le contre-la-montre, parce que c'est plus vite pour le deuxième part de course, parcours qui était plus vite. Et oui, je crois que ça, c'était le bon choix.
C'était le bon choix, nous dit Chris Froome. Qu'en dit Philippe Mauduit, le directeur sportif d'Alberto Contador? Pourquoi ne pas lui avoir donné un vélo de contre-la-montre dans la descente, Philippe Mauduit?
Non, parce qu'on voit déjà que dans la dernière montée, Chris reprend une grosse partie du temps qu'il avait perdu dans la deuxième montée, il reprend une grosse partie du temps qu'il avait perdu dans la première montée. Donc après on peut spéculer sur le changement de vélo. Je pense qu'au final, c'est kiff-kiff, quoi. Et il faut faire des savants calculs pour savoir quelle était la bonne option. Je pense que Chris, sur un terrain moyennement vallonné, voire plat, lui est très supérieur. Et bon, c'est comme ça, c'est déjà pas si mal ce qu'il a fait.
Voilà, donc Philippe Mauduit qui pense, lui, que le changement de vélo n'aurait pas fait la différence. Thierry, ton avis, toi qui es quand même l'homme du vélo, hein, qui vend des beaux vélos look, alors est-ce qu'il y a une vraie différence entre le vélo de contre-la-montre et le vélo normal, le vélo pour grimper?
Ah, bien sûr que sur un parcours roulant, comme il avait sur le final, certes, on est plus avantageux à prendre un vélo de chrono, puisqu'on est en plus bas, on a une position plus basse et plus aérodynamique qu'un vélo traditionnel. Bon, maintenant, c'est vrai que qu'on connaît le résultat, on a l'impression que, c'est facile à dire, il aurait peut-être dû le changer, mais comme a dit Philippe Mauduit, je pense que Froome est supérieur à Contador sur les parcours roulants, et sur un final comme ça, il se devait.
Ouais. Je pense qu'il était le favori, mais c'est vrai qu'on a douté à un moment donné. On a vu la pluie, Thierry, on s'est dit là, Contador a peut-être un coup à jouer parce qu'il doit prendre des risques. Il a pris des risques d'ailleurs dans la descente. Oui. Et puis finalement, la route s'est asséchée au moment où les deux hommes passaient et la différence était estompée. Et Chris Froome a repris sa supériorité. Il est supérieur en ce moment à Contador.
Oui, c'est un bras de fer aussi entre lui et Contador. Donc il n'y en a pas un qui voulait. Dans l'information, on l'a bien vu hier, Froome nous avait annoncé. On sait déjà qu'à la rigueur, s'il était battu, c'était pas grave, parce qu'il n'allait pas prendre de risques. Et on a vu qu'aujourd'hui, il n'avait pas pris de risques du tout. Il s'est lâché comme un fou.
Pas besoin de prendre de risques.
Non, mais il s'est lâché comme un fou. Il s'est lâché comme un fou. Il est supérieur. Ouais. C'est vrai qu'en chrono, et Philippe Mauduit l'a dit, dans la dernière montée, il lui avait déjà repris du temps.
Ouais. Donc, Thierry, Luc et Cyril, demain, il va falloir prendre des risques. Il va falloir prendre des risques. Parce que vu ce qui nous tombe sur le coin de la figure en ce moment, vu les prévisions météo qui ne s'annoncent pas franchement très optimistes demain, on se dit que la descente de Sarenne pourrait être le juge de paix de ce tour.
Pourquoi pas la descente du col d'Ornon déjà?
Ah, D'accord. Pour toi, c'est la descente d'Ornon qui.
Non, mais on peut anticiper la chose. Tout le monde attend la descente de Sarenne. Mais si on veut allonger tout ça.
Thierry,
le col d'Ornon.
Attends, il y a l'Alpe d'Huez à monter déjà.
Mais oui, la non, col, mais la, attends, la... Tu fais une descente. C'est pas te tuer au boulot. Tu fais la descente par rapport à un gars qui veut pas prendre de risque. Je peux te dire, dans le col d'Ornon, déjà, tu arrives en bas avec un peu d'avance. Et après, tu peux gérer différemment. Parce que là, c'est pareil. Tout le monde parle des deux montées de l'Alpe d'Huez. Mais dans ces cas-là, on va attendre la dernière montée si on calcule
mais
bien.
Non, et comme, attends, t'as si. Les deux montées, Thierry.
Rappelez-vous. Le débat, c'est la descente de Sarenne. On parlera de la montée à un autre moment. Donc, la descente de Sarenne, on va en parler avec Pierre-Yves, puisque vous voulez pas en parler. Vous parlez d'autre chose. Mais de tout sauf de cette descente de Sarenne.
Ils sont pas sérieux.
Pierre-Yves, la descente de Sarenne, elle est très dangereuse. Elle est très dangereuse. Et en plus, la météo s'annonce particulièrement délicate demain, une nouvelle fois. Est-ce qu'il est envisagé, par l'organisation du Tour de France, de neutraliser cette étape, de neutraliser en tous les cas la descente, pas l'étape, mais la descente. Est-ce que ça s'est envisagé ?
En tout cas, c'est la question qu'il ne faut pas poser à Jean-François Pécheux. Il était terriblement agacé parce qu'il a eu cette question toute la journée dans la voiture. Quand il est descendu de la voiture à la fin du contre-la-montre tout à l'heure, on lui posait encore la question. Et la seule réponse que j'ai entendue de lui, c'est mais s'il y a de la neige sur les Champs-Élysées, évidemment qu'on ne va pas faire l'étape. Mais de toute façon, là, il est question de pluie pour l'instant. Il faudrait vraiment qu'il y ait un déluge pour que cette étape soit neutralisée, qu'il n'y ait finalement qu'une montée sèche de l'Alpe d'Huez. C'est pas du tout le programme prévu pour l'instant.
Non, c'est pas possible.
Mais oui, mais Christophe, si tu envisages d'enlever Sarenne, la descente du col de Sarenne, tu gâches cette étape.
Ah, bien sûr,
Dans ces cas-là, pourquoi pas neutraliser aussi toutes les descentes, parce que quand pleut, on va neutraliser toutes les descentes. Ouais.
C'est des confrères qui ont lancé cette rumeur, mais bon, Jean-François Pécheux a tenu à y mettre fin. Donc demain, quelles que soient les conditions, à part évidemment si la route s'écroule, mais ça, on compte sur Dédé. Hein, on compte sur Dédé pour nous
l'assurer. Tu l'as cassé tellement cet après-midi.
Il est avec nous ce soir. Ça va, André?
Oui, ça va.
André Bancala de l'Assemblée des départements de France qui prépare la route. Cette descente de Sarenne, parle-nous-en en quelques mots. Pourquoi fait-elle peur à tout le monde?
Parce qu'elle est extrêmement étroite. C'est une route qui fait entre 3,50 m et 4 m de large. Dans la montée, il y a 4-5 lacets. Et dans la descente, il y en a beaucoup plus. On n'a pas possibilité de relancer entre un lacet et l'autre. On passe un lacet et on retombe sur une épingle juste après. Alors certes, ça a été utilisé, la route a déjà été empruntée sur le critérium, donc ça n'est pas totalement inédit dans le monde du vélo, mais ça reste quand même dangereux. Quant au revêtement, il n'est pas forcément en mauvais état. La montée est un peu plus dégradée que la descente, donc c'est plutôt en descente que les risques se prennent, évidemment. Sur la descente, ça devrait relativement bien passer.
Est-ce que c'est plus dangereux, par exemple, que la descente que nous avons vécue aujourd'hui, celle où a chuté Perrault ou tous les autres? Non, c'était surtout la première qui était
étroite. On est à peu près la même chose. C'est un peu comme la descente de la
Croix de Fer. Sauf qu'il y a le ravin. Et le ravin, il est vertigineux. Hein. C'est un peu
le problème, c'est ça.
Souci,
en plus, il n'y a pas de parapet.
Il
n'y
a pas de protection.
Il y a très peu de parapet, très peu de protection. Si on tombe, on tombe de haut.
Ouais, oui, mais André, c'est la même chose pour le col d'Ornon. Le col d'Ornon, c'est un peu plus large. Un peu plus large, certes.
C'est plus large.
Mais il y a un précipice dès qu'on sort de la route.
C'est-à-dire que là, si on tombe dans le précipice, il y a peu de chances qu'on vous récupère en bon état.
On fonctionnera beaucoup moins bien après.
D'accord. Bon,
c'est pas une clavicule.
Alors
c'est autre chose.
Ça fait peur à tout le monde, notamment à Andy Schleck. On va écouter Andy Schleck et ensuite je vous demanderai votre avis sur cette étape. Andy Schleck, le grand grimpeur luxembourgeois, l'ancien grand grimpeur luxembourgeois, mais qui n'a jamais été un grand descendeur. Est-ce qu'il en a peur de cette descente?
Je dois dire, ça c'est vraiment très très dangereux. Quand nous on a fait, il y avait une semaine après le Dauphiné, il a passé. On a aussi vu des autres coureurs qui ont critiqué ça. Ça c'est quelque chose que moi je comprends pas, parce que tu peux faire des descentes acceptables, ça c'est pas vraiment acceptable mais on n'a pas le choix de le faire, parce que là si t'as une crevaison avant un virage, ou si tu rates la route, parce que c'est seulement 2 mètres et un peloton qui descend à bloc, tu tombes pas dans les herbes, mais tu tombes et tu descends 50, 150, 300 mètres. Tout le monde de l'équipe qui était avec nous, on était très choqués.
Voilà, Andy Schleck qui nous dit effectivement si tu passes par-dessus le parapet, tu tombes de 100, de 150 mètres et là effectivement on te récupère en morceaux en dessous. En plus, André, les conditions sont évidemment difficiles. Il pleut ce soir sur Chorges et il pleuvra demain dans l'après-midi sur l'Alpe d'Huez. Hein. Oui, Cyril.
Oui, j'ai regardé la météo. Il y aura effectivement de gros orages dans la descente entre 12h et 16h.
très bien. Monsieur Météo, la grenouille d'RMC, c'est Cyril.
Notre non, je suis déjà le druide, je ne vais pas m'appeler la grenouille. J'ai pas d'échelle.
Il a coupé des dés. Ce qu'il ne dit pas, c'est que qui dit eau dit peut-être des coulées d'eau et éventuellement un peu de boue, un peu de gravillon.
Ah oui,
donc on peut avoir la totale.
Il n'y a pas de neige non plus demain annoncé. Ça va, on est tranquille de ce côté-là.
En vrai, ne fais pas. Il peut y avoir, il y a quand même aussi pas mal d'animaux qui sont dans le coin.
C'est une zone, si tu crois des sangliers en plus,
des marmottes éventuellement.
C'est une zone
protégée. C'est quand même une zone protégée. Et si quelques animaux se baladent un peu en hauteur, ils peuvent faire tomber quelques cailloux. Alors c'est pas des blocs, hein. Ouais. Ils peuvent faire tomber quand même quelques caillasses sur la chaussée. D'où les précautions prises par le département qui a rajouté des balayeuses et des chargeurs, donc des bulldozers pour nettoyer éventuellement. Donc c'est quand même assez tendu.
Et il y aura pas de neige. Hein. Il fera 17 degrés.
17. Oh, ça va.
Mais non, mais faut pas en faire un plat.
Non, monsieur, pas plus que ça. On essaye de dramatiser un peu.
Ça va être super sympa.
Le col d'Ornon aussi qui se remplit d'eau. Il y en a deux des passages à
guet. Ah oui, il y a deux passages à guet. Super sympa. Hein. Quand il fait des gros orages, ça peut être coupé.
On va écouter Nicolas Portal, le directeur sportif de Chris Froome de la formation Sky. Lui, il craint qu'Alberto Contador attaque et ne fasse tout exploser. Nicolas Portal.
Je sais pas si. En fait, la question, c'est la vraie question que vous me posez, c'est est-ce que des coureurs vont prendre cette descente pour essayer de faire la course. Ça, franchement, je sais pas. J'espère pas. Non, mais voilà, on est clair, c'est ça. J'espère pas parce que ça m'est quand même très compliqué. Quoi. Là, on joue avec des vies humaines quand même.
Comment vous envoyez un message à Alberto Contador alors. Si on doit nous attaquer, c'est pas là.
Non, s'il va attaquer, il part tout seul, mais il évite d'amener trop de monde avec lui quoi, parce que ça va. C'est peut-être pas tout le monde qui peut prendre sa roue. Quoi.
Voilà, Nicolas Portal.
On acceptise.
Non, mais tout le monde a la truc. Cyril, elle te fait peur cette descente?
Non, je la connais pas.
Tu la connais pas.
Non, mais de toute façon, toutes les descentes sont dangereuses. Quand vous avez la muraille d'un côté, vous prenez un virage, vous ratez, vous crevez, vous allez percuter la muraille. Rappelez-vous, il y a 2 ans, il y a eu un accident. D'ailleurs, c'était sur le Giro. Et c'est dans la muraille qu'on a tapé. Bon, le cyclisme n'est pas un sport où il n'y a pas de danger, où il n'y a pas de risque. Le risque zéro n'existe pas dans une course cyclisme. Il n'existe pas dans une course de voiture, il n'existe pas dans une course de moto. Il n'existe pas dans les courses.
Oui, mais à la différence de la moto ou de la Formule 1, les cyclistes, ils sont en short avec un tout petit casque et en t-shirt. Hein, et quand on chute, ça fait pas du bien. On
a bien vu. Avec simplement du vernis qui s'enlève, ça va encore.
Si c'est du vernis, mais 150 mètres de chute, c'est pas du vernis. Hein. C'est pas du vernis à 150 mètres.
Ça, c'est autre chose.
Bref, on verra demain, mais ce serait bien quand même que les conditions s'améliorent, même si évidemment on veut assister à du spectacle. Mais enfin, il faut quand même raison garder. Voilà donc pour la descente de Sarenne. Merci à André. On va nous revenir dans quelques instants. On va faire les paris. Il s'est passé des drôles de choses. Encore dans cette étape, il y en a certains qui ont fait comme Jean-Christophe Perrault, hein, qui ont chuté à 2 reprises aujourd'hui. On en parle dans un instant.
RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France. Christophe Cessieux.
Spécial Tour de France au soir de la 17e étape du Tour de France. Donc ce dernier chrono qui nous a conduit de Embrun jusqu'à Chorges en attendant l'étape de demain. L'étape reine entre Gap et l'Alpe d'Huez. Nous allons tout de suite revenir sur les paris. Il s'est passé des choses cet après-midi. Benji est là.
Les paris RMC. Tour de France.
Monsieur Benji, bonsoir.
Salut messieurs.
Salut Benji. Je suis pas content Benji. Hein.
Moi non plus. Parce que moi je peux pas parier.
Parce que tout le monde a changé les paris cet après-midi, sauf moi.
Ah non, absolument pas, personne n'a changé cet après-midi.
Personne n'a changé.
Christophe Cessieux a mis.
Moi, j'ai comme ça, non,
c'est pas Personne n'a changé l'autre choix.
L'autre choix, t'as perdu encore.
Non, mais de toute façon, c'est pas grave.
C'est pas grave.
Bon, alors, Benji, raconte-nous un peu le bilan de ces paris.
Oui, bilan. En fait, rien n'a changé puisque la cote était tellement faible pour Froome, même si Christophe, Cyril, Bourgui et Virginie avaient joué Froome, ça ne change pas grand-chose. Vous avez gagné 2 euros de bénéfice. Donc
non,
tout
j'ai
le monde...
mis 5 000 euros. Moi, j'ai mis 5 000 euros. Ah non, non.
Non, mais je suis désolé, Christophe.
5 000 euros, c'est pas mal.
Je suis d'accord.
Non, j'ai pas changé.
Il a pris une deuxième possibilité.
Et
alors
il a mis 200 euros.
Il a perdu 200 euros.
Ça lui a fait baisser le truc. Regarde, qu'est-ce que mauvais joueur.
Vous êtes fou,
c'est bien un journaliste.
Benji, écoute bien, il entend bien.
Journaleux.
Benji, je vois pas pourquoi vous râlez puisqu'il a perdu de l'argent dans l'histoire.
D'accord, mais c'est parti.
Lucho, t'avais pas compris.
Je vais être obligé de remettre mon maillot jaune que Thierry m'avait tricoté avec ses douces mains. Je vais le remettre à Cyril qui va évidemment rester en tête ce soir. Hein.
Ouais, mais avec obligation de le porter toute la nuit.
Voilà. Très bien. Benji, l'étape de demain, c'est donc l'étape reine de ce Tour de France, 18e étape entre Gap et l'Alpe d'Huez. Deux fois l'Alpe d'Huez, plus la descente de Sarenne. Quels sont les principaux favoris pour cette étape?
Et pour changer, c'est Chris Froome qui est favori de 90. Derrière, cote de 4 pour Nairo Quintana. Joaquin Rodriguez, 8,50. Et puis après, on retrouve des coureurs avec des cotes beaucoup plus intéressantes, comme Alberto Contador, cote de 12, Mikel Nieve à 16, ou encore Alejandro Valverde qui est à 17, Andy Schleck lui est à 20.
Très bien, je vais commencer comme ça au moins on m'accusera pas de tricher. Je vais mettre deux billets sur Quintana et l'autre sur Rodriguez.
Ah voilà, mais moi depuis le 15 jours je dis que c'est Rodriguez qui va gagner l'Alpe d'Huez.
Je l'ai dit avant toi.
Tu sais très bien que je te l'avais dit et que cet après-midi j'insistais sur Rodriguez. Mais quel mauvaise foi ce mec.
Vous avez joué tous les deux.
Rodriguez, c'est noté.
Hein, Thierry.
Ah, j'aurais tendance à vouloir Pierre Roland, mais Pierre Roland, de toute façon, c'est pas l'année des Français. Mais non, mais cet après-midi, il en avait rien à faire cet après-midi. Mais même, déjà, il a des pancartes accrochées.
Non, mais avec la descente entre les deux, Thierry.
Et alors attends, il est pas si mauvais que ça.
J'ai suivi cet après-midi au chrono. Il était collé. S'il pleut demain dans la descente,
aujourd'hui n'est pas la même journée de demain que demain. Il en avait rien à faire aujourd'hui. Demain, c'est un autre monde. Bon, une autre journée.
Toi, tu penses que Pierre Roland...
Je vais jouer un petit billet Pierre Roland et un autre sur Nieve.
Nieve, d'accord.
Nieve,
c'est bien coté ça, Benji.
Oui, il est à 16.
Parce qu'il m'a fait impression le coup du Ventoux. S'il se glisse dans un coup demain et que la grande bataille n'a pas lieu, parce que tout le monde a peur de cette descente et ça peut refroidir tout le monde. Et comme d'habitude, on se fait un monde des grandes étapes de montagne et on s'aperçoit que les mecs ils se font la guerre que la dernière montée. Donc j'ai l'impression que demain
ça va se passer dans la première montée de l'Alpe, elle va se faire tranquille.
C'est ce que je te dis.
La bagarre va commencer dans la descente.
Je pense que la bagarre va commencer dans la première montée avec les Contador et tout.
Tu penses?
S'ils veulent déstabiliser le maillot jaune, il faut qu'ils mettent le feu très tôt.
Cyril, Cyril observe le parcours, observe les positions des uns et des autres. Il réfléchit depuis un bon quart d'heure là pour
depuis le réveil ce matin et pendant mon footing de ce matin.
Je suis sûr qu'il va mettre sa gueule.
Alors de toute façon, vous avez une échappée qui va partir peut-être comme l'autre jour de 15 ou 20 coureurs et que c'est peut-être là qu'il faudra aller chercher le vainqueur. Mais c'est pas mon souci à moi. Je vais tout simplement miser sur Contador demain.
Alberto Contador pour Cyril. Tu penses que Chris Froome va le laisser partir et va le laisser s'imposer?
Je ne ferai pas de commentaire particulier.
On aime bien quand tu fais des commentaires parce qu'on peut peut-être mettre un troisième billet après.
Non, mais justement.
Rodriguez sera plus fort que Contador demain.
Eh bien, allez Rodriguez.
De toute façon.
Une seconde d'écart entre les deux hommes aujourd'hui. Hein. Contador qui s'impose devant Rodriguez.
Contador, il a fait une erreur aujourd'hui, à mon avis. Vous savez, entre le vélo de contrôle la monte et le vélo normal, même si on avait mis des petits prolongateurs, c'est entre 3 et 5 secondes au kilomètre quand même. Hein.
Est-ce que Virginie est là?
Elle est là, bien
elle
sûr.
Elle est là, Virginie. Mais je connais déjà son pari.
Eh ben non, en fait, je vais faire une mini entorse à ce que je fais habituellement. Je ne vais pas jouer Chris Froome. Mais c'est pas du tout pour copier sur Cyril, mais je voulais jouer Contador.
Tu vas jouer Contador?
Oui, je voulais jouer Contador.
Yeah. D'accord, tu vas faire plaisir à
c'est bien,
à
vous avez tous perdu.
Tu vas faire plaisir
à Georges. Parfait, je vais remonter au classement général.
Tiens, il y a Fred.
Il n'y en a pas un qui joue Froome.
Peut-être Fred, il est là, Fred. Ouais, pour une fois, il est dans le camion, Fred. Il pleut aujourd'hui, donc il vient dans le camion. Fred.
Vous me prenez de court.
Ah bah non, tu réfléchis. Pom, pam.
Allez, Fred. Pom, Contador, bien sûr.
Contador, d'accord.
Il est tellement affûté, Fred, qu'il a le petit polo, la chemise longue par-dessus.
Très bien, on verra ça donc demain.
On arrive en montagne.
Oui, on arrive en montagne. Enfin, on y est un peu déjà en montagne.
Mais attends, la haute montagne.
Ah, le Ventoux, c'était pas mal. Aujourd'hui, c'était bien. Mais demain, effectivement, c'est encore plus haut. Et après-demain aussi. Merci Benji, on verra ça demain.
Ciao messieurs.
Salut Benji.
Salut.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Aaron Marchetti, rédacteur en chef du Parisien aujourd'hui en France, nous rejoint pour évoquer est-ce qu'il y aura dans ce beau journal demain. Salut Harold.
Bonsoir.
Bon, alors, les titres des pages Tour de France du Parisien de demain, j'imagine qu'on doit être un peu dans les mêmes eaux. Il doit y avoir du Froome, du Contador et peut-être la terrible journée de Jean-Christophe Perrault.
Je crois que vous êtes devin, parce qu'effectivement, ce sont ces trois thèmes notamment qui seront développés dans nos pages demain, effectivement. Bon, on aura également un zoom sur Alpe d'Huez, où ils annoncent entre 700 000 et 1 million de personnes, et puis un petit cuillère de Pierre Roland, dernier vainqueur à l'Alpe en 2011.
Ouais, 700 000 personnes attendues demain à l'Alpe d'Huez, Harold, c'est énorme ça. Hein.
Écoutez, c'est énorme, mais apparemment c'est confirmé même par les autorités. Donc certains parlaient même jusqu'au million, chiffre qui peut paraître ubuesque. Mais bon, ils expliquent c'est une comptabilité un petit peu particulière, ça partirait de Bourg-d'Oisans et jusqu'à la montée dans les 21 virages, puis après arriver dans la hype. Alors pourquoi pas, en tous les cas, ça va être une véritable marée humaine qui va déferler sur ce beau coin de France.
Voilà. Froome, demain, une nouvelle fois victorieux. Qu'est-ce que vous en dites aux parisiens, vos experts.
Personnellement, moi, je pense que Froome, pour le moment, il a mis un point d'honneur à arriver à toutes les étapes au sommet en vainqueur. C'est possible. C'est possible, même si je mettrais bien une petite pièce en Contador, qui a quand même, je dirais, l'habitude de très, très bien finir. Il est toujours très bon dans les troisièmes semaines, Contador. Aujourd'hui, ouais. Pour pas grand chose. Je pense que demain, il va essayer de faire un numéro. En revanche, je crois beaucoup moins à Pierre Roland.
Beaucoup moins à Pierre Roland. Mais c'est vrai que tout le monde se demande si Pierre Roland, même s'il a misé, hein, évidemment, l'Alpe d'Huez, c'est là où il avait explosé aux yeux du grand public il y a deux ans en remportant cette étape Rennes. Mais c'est difficile. Hein. Cyril, c'est difficile de remporter l'Alpe d'Huez quand on n'a pas été au top depuis le début du Tour de France, franchement.
Oui, et puis il est marqué moralement aussi. Hein, et il a perdu son maillot. Pour aller le rechercher, ça va être difficile, d'autant qu'il va encore y avoir une arrivée au sommet demain. S'il allait chercher la gagne de l'étape, oui, éventuellement. Mais je ne pense pas qu'il ait les jambes sur cette fin de tour pour aller chercher la gagne en haut de l'Alpe d'Huez. Je l'espère pour lui, bien sûr. Et
évidemment.
Et pour le cyclisme français aussi.
Oui, mon bon monsieur, il faudrait qu'il y en ait une quand même. Harold, un petit mot justement sur le cycliste français du jour, avec cette terrible image qui restera probablement comme l'image du tour. La chute de Jean-Christophe Perrault, je crois que vous avez écrit un papier sur la terrible journée de JC. Hein.
Effectivement, il est allé au bout de lui-même. Et ce matin, on s'imaginait déjà qu'il prendrait de gros risques en accomplissant ses contre-la-montre. Et malheureusement, en fait, j'ai l'impression que c'est au moment où il pensait que la course était quasiment finie, donc il avait réussi son pari. Il s'est peut-être relâché. Et puis, c'est vrai que ça fait vraiment mal de voir tomber comme ça. Moi, je lui dis chapeau quand même, malgré tout. Franchement, ouais. c'est vraiment. Il a été, d'une certaine manière, le héros malheureux. Mais je pense que, vu les souffrances qu'il endurait, il ne méritait pas, je dirais, de quitter le tour dans une voiture.
Exactement. Il a été jusqu'au bout de la douleur, jusqu'au bout de ses possibilités. Jean-Christophe Perrault, qui a donc abandonné tout à l'heure, a pris une deuxième chute dans la descente de la deuxième difficulté du jour. Merci Harold. Ce sera donc à lire demain dans Le Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire sur ce Tour de France. Les journalistes du Parisien qui sont toujours avec nous pour chercher les infos, traquer les bonnes infos. Merci Harold.
Merci, bonne soirée.
Virginie Fulpin me rejoint évidemment. On va lui passer le relais pour
bien
une
sûr.
Petite demi-heure.
Bien sûr, il faut quand même que tu te reposes un peu, Christophe, avant l'Alpe d'Huez. Oula. Ça va pas être simple deux fois
Oula
en plus.
Là, deux fois, puis en plus, il faut descendre entre les deux.
Oh là 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 là, je vais pas miser sur toi, je crois, pour demain. Je te sens pas.
Moi, j'ai vu une photo tout à l'heure sur les réseaux sociaux. J'hésite aussi à miser sur toi quand même. Hein.
Justement, c'est le repos avant.
De la guerrière.
Oui, le repos de la guerrière, exactement. À demain, Christophe, pour l'intégrale. Tour sur RMC. Luc Leblanc et Thierry Bourguignon vont rester avec moi. Je sais que vous avez beaucoup de questions à leur poser, de remarques à leur faire au 32-16, le standard d'RMC. Dépêchez-vous, hein, c'est jusqu'à 20h30 seulement. Je vous rappelle que vous pouvez aussi utiliser Twitter avec le hashtag RMC Tour. À partir de 20h30, ce sera notre page football. Elle est très chargée, hein, puisqu'il se passe beaucoup de choses sur le marché des transferts. C'est Mohamed Bouafsi qui viendra nous en parler. Et puis on parlera du cas Florian Thauvin. Et le LOSC répondra aux informations que nous avons sur Florian Thauvin, qui est tout juste rentré de la Coupe du Monde des U20 et qui doit rentrer maintenant à Lille, son nouveau club, puisqu'il a signé au mois de janvier avec le LOSC. Il est 19h57, à tout de suite.